En 62 de l'ère de la dissuasion. Par-delà le nuage d'Oort, le gravité. Le gravité pourchassait l'espace bleu depuis déjà un demi-siècle. Il approchait à présent de sa cible. Les deux vaisseaux n'étaient plus distants que de 3 unités astronomiques, une bagatelle sur l'année-lumière et demie qu'ils avaient parcouru jusque-là. 10 ans plus tôt, le gravité avait dépassé le nuage d'Oort. Ce réservoir de comètes s'étendant jusqu'à 1 année-lumière du Soleil, communément considéré comme la bordure du système solaire. Le gravité et l'espace bleu furent les premiers vaisseaux humains à franchir cette frontière. Quand ils la traversèrent, cette région ne leur fit nullement l'impression d'un nuage. Ils étaient tout au plus frôlés de temps à autre par une comète glacée sans queue, mais elle se trouvait tout de même généralement à quelques dizaines ou à quelques centaines de milliers de kilomètres de leur appareil, si bien qu'elle était invisible à l'œil nu. Laissant derrière lui le nuage d'Oort, le gravité entra dans le véritable espace lointain. Le soleil n'était plus qu'une étoile ordinaire observable à l'arrière du vaisseau. Comme toutes les autres étoiles, il avait perdu tout sens réel. Ce n'était plus qu'une illusion dans un néant lointain. De tous les côtés, le ciel n'était qu'abysse. La seule existence tangible que les sens permettaient d'attester était celle des gouttelettes escortant le vaisseau. Les 2 sondes trisolariennes encadraient le vaisseau à une distance de 5 kilomètres, de sorte qu'on pouvait tout juste les voir à l'œil nu. Les passagers du gravité aimaient les regarder depuis leur hublot muni de télescopes. Elles étaient après tout la seule source de réconfort dans ce vide infini. Observer une gouttelette, c'était en réalité s'observer soi-même, comme dans un miroir. C'était en effet le gravité que leur surface réfléchissante offrait au regard, et même si les dimensions du vaisseau étaient quelque peu distordues, la surface des gouttelettes était si lisse qu'elle rendait son image parfaitement claire. Avec un grossissement suffisant, l'observateur pouvait même contempler son propre reflet derrière le hublot du vaisseau. Mais la majorité de la 100aine de passagers du gravité n'avait pas fait l'expérience de cette solitude, car ils avaient passé la plus grande partie de ces 50 années en hibernation. Au cours de la navigation régulière avaient lieu des rotations d'équipes constituées de 5 ou 10 personnes. Chaque unité travaillait pendant une période assez courte, de 3 à 5 ans, avant d'être relevée. Toute la poursuite consistait en réalité en un jeu d'accélération permanent entre les 2 vaisseaux. De son côté, l'espace bleu n'était pas en mesure de produire une accélération constante, car il risquait d'épuiser l'ensemble de ses combustibles et de perdre ses capacités de mobilité. Même en imaginant qu'il puisse échapper à son poursuivant, c'était un suicide que de s'engager dans l'immense désert spatial sans carburant. Le gravité était lui aussi limité en combustible, même si son stock était plus fourni que celui de l'espace bleu. Il lui fallait néanmoins songer au voyage de retour. L'utilisation de ces combustibles devait ainsi être répartie en 4 parts égales. L'accélération pour sortir du système solaire, la décélération une fois proche de la cible, l'accélération pour retourner dans le système solaire et la décélération à l'approche de la Terre. Aussi, seul 1/4 de son stock pouvait être engagé pour la poursuite. Par chance, grâce à un calcul effectué sur la base de leur précédente navigation et à l'appui des rapports transmis par les intellectrons, le gravité connaissait précisément l'état du carburant à bord de l'espace bleu, tandis que ce dernier ignorait tout du sien. Dans cette partie de bluff, le gravité pouvait voir les cartes de son adversaire qui restait quant à lui dans le noir. Entre leurs accélérations alternées, le gravité s'attachait à maintenir une vitesse plus grande que celle de l'espace bleu, mais la vitesse maximale que tous 2 étaient capables d'atteindre était sensiblement la même. La 25e année de la poursuite, l'espace bleu cessa d'accélérer, son stock de combustible ayant peut-être atteint un niveau critique. Tout au long de ce demi-siècle de poursuite, le gravité ne cessa d'envoyer des messages à l'équipage de l'espace bleu, signalant à ses membres que leur fuite était stérile, car même s'ils échappaient à leurs poursuivants terriens, les gouttelettes les rattraperaient et les détruiraient. En acceptant de décélérer et de rentrer immédiatement sur Terre, ils auraient droit à un procès équitable. La possibilité leur était offerte d'écourter cette traque. Mais l'espace bleu ne répondit à aucune de ces injonctions. Un jour, un an auparavant, alors que la distance entre les deux appareils s'était réduite à 30 unités astronomiques, un événement imprévu se produisit. Le gravité et les deux gouttelettes entrèrent dans une zone aveugle pour les intellectrons. Les contacts simultanés avec la Terre que permettait l'intrication quantique furent interrompus. Le gravité ne communiquait dorénavant avec sa planète d'origine que par l'intermédiaire des ondes électromagnétiques et des neutrinos. Il fallait désormais 1 an et 3 mois pour que les messages transmis par le vaisseau parviennent sur Terre, et le même temps pour que celui-ci reçoive une réponse.